Vous écoutez, on lit pour vous.
Préserver les super-pouvoirs des Autochtones. Un texte de Sophie Payeur, paru le 22 octobre 2024 dans Les As de l'Info. Au fil des siècles, les Autochtones ont acquis de vastes connaissances sur la nature et le climat. Des scientifiques réalisent que ces savoirs sont précieux pour s'adapter au changement climatique. Le hic, c'est qu'il n'y a pas vraiment de livre sur ces savoirs ancestraux. Bonne nouvelle! Les scientifiques ont plus d'un tour dans leur sac. Je te présente trois projets ingénieux visant à préserver les super-pouvoirs de trois communautés autochtones à travers le monde. Bonne découverte! Le projet Yanayi en Afrique et Haïti. Yanayi, c'est un mot africain qui veut dire à la fois climat et lutte contre la pauvreté. C'est le nom donné au projet scientifique qui s'est déroulé en 2020 en Afrique et en Haïti. Des dizaines d'étudiants ont rencontré les personnes aînées pour leur poser des questions. Comment vivent-elles les changements climatiques? Qu'ont-elles fait pour s'y adapter? Les conversations étaient enregistrées en langues autochtones, puis traduites en français. Elles ont été déposées sur un site web où tout le monde peut écouter les histoires de plus de 400 personnes aînées de 8 communautés différentes. La pharmacie Innu Dekwa Nitchit en Mingani, au Québec. S'adapter au changement climatique, ça veut aussi dire se préparer aux conséquences sur la nature et la santé. En 2003, la communauté Innu Dekwa Nitchit a créé une pharmacie de plantes médicinales. Des aînés enseignent à des apprentis où et comment cueillir ces plantes qui soignent. Le projet accomplit deux choses. Préserver à la fois les connaissances autochtones et les plantes médicinales. Le projet Uru Uru en Bolivie, en Amérique du Sud. En terminant, je t'amène en Bolivie, au bord du lac Uru Uru. Autrefois, ce lac grouillait d'animaux et de vie. Malheureusement, aujourd'hui, l'eau est contaminée et contient des masses de déchets de plastique. Avec le réchauffement climatique, son état s'aggrave. Si le lac meurt, c'est comme si l'âme de notre peuple mourait, dit Tatiana Blanco, membre de la nation autochtone Aymara. Elle a fondé l'équipe Uru Uru qui s'est donné la mission de trouver des solutions pour le lac à partir des savoirs traditionnels de la nation Aymara. On peut y voir de petits radeaux faits de matériaux recyclés où pousse une plante qui s'appelle totora. La totora a le pouvoir d'absorber les contaminants. Or, grâce à ces drôles d'îlots touffus, la pollution du lac a été réduite de 30%. Une manière brillante de propager le savoir autochtone et de ramener près du lac des milliers d'oiseaux colorés. Au bénéfice de toutes les générations futures. Les peuples autochtones représentent seulement 6% de la population mondiale, mais ils vivent au moins 80% des effets du réchauffement climatique. Trop souvent, leurs points de vue sont oubliés lorsque des décisions importantes sont prises sur le climat. Aujourd'hui, ils exigent d'être impliqués, d'autant plus qu'ils offrent des solutions respectueuses de la nature. Cet article a été produit grâce à une collaboration avec le Climatoscope. C'était « Préserver les super-pouvoirs des Autochtones ». Un texte de Sophie Payeur, paru le 22 octobre 2024 dans Les As de l'Info.
Doit-on craindre les aflatoxines? Un texte de Catherine Anfield, paru le 27 octobre 2024 dans la presse. Une lectrice, Nicole Turgeon, demande: j'ai appris qu'une toxine, l'aflatoxine, peut se trouver dans les noix et fruits séchés que l'on consomme, même biologiques, et que cette toxine présenterait un risque pour la santé, entre autres pour le cancer du foie. Qu'en est-il? Qui dit contamination des aliments pense aux bactéries, listeria et salmonella, ou alors au plomb, ou à l'arsenic. Mais l'aflatoxine, qu'est-ce que c'est, une aflatoxine? Les aflatoxines sont des toxines sécrétées par une famille de champignons portant un joli nom, les Aspergillus. Ces champignons peuvent se retrouver sur les denrées de deux manières, explique Samuel Godefroy, professeur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Soit en pré-récolte, donc ils sont dans les sols ou alors ils poussent sur les plantes, soit en post-récolte, les spores des champignons se baladent dans les airs et atterrissent sur d'autres denrées, explique l'expert en analyse des risques alimentaires. Certaines de ces aflatoxines, surtout les aflatoxines B, font partie des toxines naturelles les plus toxiques. L'incident le plus grave s'est produit au Royaume-Uni en 1960. Pas moins de 100 000 dindes sont mortes après avoir ingéré des arachides ayant des concentrations extrêmement élevées en aflatoxines. Les aflatoxines peuvent se trouver dans une variété d'aliments, dont le maïs, le riz, le sorgho, le café, les épices, etc., mais surtout dans les arachides, les fruits secs, les amandes et les pistaches. Elles peuvent aussi se trouver dans le lait, mais sous une forme moins toxique. Les aflatoxines ont des propriétés qui les rendent problématiques. Elles sont inodores, incolores et cancérigènes. Des études ont montré que, dans des régions où les gens ingèrent davantage d'aflatoxines, comme en Afrique saharienne, en Asie du Sud-Est et en Chine, on recense davantage de cas de cancer du foie. L'effet cancérigène a aussi été démontré en laboratoire. Malheureusement, pour les aflatoxines B en particulier, on n'a pas trouvé un seuil qui fait que ces toxines ne sont pas actives, explique Samuel Godefroy. Cela dit, pour avoir cet effet cancérigène à faible dose, il faut en consommer régulièrement, toute sa vie, presque tous les jours, précise le professeur Godefroy. Risque minime. Au Canada, la concentration totale maximale d'aflatoxines permise dans les noix et produits de noix est de 15 parties par milliard, ppb. Il n'y a pas de limite pour les autres types de produits. Les seuils réglementaires permettent de rendre le risque d'en manger de façon régulière et toute sa vie acceptable, explique le professeur Godefroy. On parle d'une chance sur 100 000 ou sur 1 million d'avoir une recrudescence de cancer, explique-t-il. Et avec ces seuils, pour avoir un effet aigu, il faudrait consommer entre 93 et 480 kg de noix en 3 semaines, souligne Samuel Godefroy. Ce qui est absolument impossible, résume-t-il. Le risque zéro n'existe pas, mais au Canada, il est minime. Je dirais à votre lectrice de ne pas s'inquiéter, dit Chantal Bémeur, professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal et spécialiste de la nutrition en lien avec les maladies du foie. Jamais elle ne conseillerait à un patient de ne pas manger de noix à cause des aflatoxines. Dans les pays développés, souligne-t-elle, des mécanismes sont en place pour prévenir et contrôler la présence de ces toxines. C'est très bien réglementé et surveillé. le gouvernement exige que les producteurs alimentaires ou les revendeurs prennent les mesures nécessaires pour identifier et maîtriser les dangers, souligne Samuel Godefroy, anciennement directeur général de la Direction des aliments de Santé Canada. Quand ils importent des produits, ils vont exiger de leurs fournisseurs des gages de sécurité. Des inspecteurs veillent à ce que ces mesures préventives soient respectées. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, ASIA, fait aussi des tests pour vérifier les concentrations d'aflatoxines dans différents produits locaux et importés. Dans ces études, la vaste majorité des produits échantillonnés, noix, céréales, graines, lait, fruits séchés, ne contenaient pas de traces détectables d'aflatoxines. Les autres en contenaient des quantités minimes. Les produits qui dépassent parfois le seuil de 15 ppb sont les épices, qu'on consomme en très petites quantités. Au début des années 2010, deux échantillons de noix ont fait l'objet de suivi, mais aucun rappel n'a été jugé nécessaire. Des conseils pour diminuer son risque? Diversifier son alimentation et ses sources d'approvisionnement, privilégier les sources fiables et opter pour la modération. Est-ce trop de manger des noix tous les jours? Non, ce n'est pas trop. Il n'y a vraiment aucun problème à le faire, indique la professeure Chantal Bémeur, qui rappelle que les noix sont riches en antioxydants, en nutriments et en bons gras. C'était « Doit-on craindre les aflatoxines ?» un texte de Catherine Enfield, paru le 27 octobre 2024 dans la presse.
Petit archipel de librairies coopératives. Un éditorial de Jean-Benoît Dumais, paru le 15 octobre 2024 dans Les Libraires. Dans notre monde hyper connecté, il est devenu presque impossible d'échapper au flux constant des nouvelles qui mettent en lumière les failles de nos systèmes sociaux et économiques plutôt que les solutions, qui font rarement la une. En octobre 2024, on célèbre une fois de plus la Semaine de la coopération. Qu'on ne s'y trompe pas. Sous un slogan dans le vent, l'effet coop, se trouve un modèle alternatif pour résister aux aléas économiques grâce à la force du collectif qui ne date pas d'hier. Si on peut retracer des pratiques coopératives dès 2000 avant notre ère en Mésopotamie, où des fermiers partageaient les terres et l'équipement, c'est véritablement la Rockdale Equitable Pioneer Society, société équitable des pionniers de Rockdale, fondée en 1844 en Angleterre, qui est reconnue comme la première coopérative moderne. Afin de répondre aux conditions économiques difficiles et à l'exploitation des travailleurs, ces 28 tisserands comprennent qu'en se regroupant, ils peuvent s'offrir des biens de base de qualité à des prix justes, ce qu'ils font en ouvrant un magasin et en redistribuant les bénéfices aux clients et clientes. Ils ont également mis en place des principes démocratiques qui régissent encore les coopératives aujourd'hui, dont le contrôle démocratique avec le principe « une personne, une voix ». Parfois, la mise sur pied d'une coopérative fait grand bruit et prend la forme d'un sauvetage lorsqu'un modèle d'affaires est brisé, comme dans le cas de la Coopérative nationale de l'information indépendante, CN2I, qui rassemble les journaux Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien, Le Nouvelliste et La Voix de l'Est, dans le plus grand groupe de presse appuyé sur ce modèle au Canada. Souvent associé à la mission de milieu communautaire, le modèle de la coopération ne s'y limite pas, comme en témoigne Baseline, une coopérative qui offre des services d'accompagnement en intelligence artificielle. Pour relever les défis de notre paysage littéraire en perpétuelle transformation, certains des membres du réseau Les Libraires, comme Le Guillon, Carpe Diem, Les Bouquinistes, Pantoute et Flottille, artisan, artisane libraire, ont choisi de prendre un chemin différent, en adoptant un modèle d'affaires qui concilie l'engagement collectif et la viabilité économique. Mélodie Caron illustre de quelle manière une coopérative, comme celle que sa communauté insulaire a fait naître en 2022, peut devenir le terreau fertile des forces vives d'une collectivité. La coopération de solidarité, dans le cas de Flottille, artisan, artisane libraire, est un modèle qui, tant dans l'esprit que dans la gouvernance, permet d'envisager la pérennité d'une librairie dans un milieu de vie éloigné et peu populeux, comme le sont les îles de la Madeleine. Le rayonnement littéraire et le bouillonnement des idées qui circulent par les livres agissent en véritable liant social. Au-delà de la viabilité de ce lieu de vie autour de la littérature, la vision collective est porteuse de sens pour notre communauté de tout près de 1000 membres au sein d'une population de plus ou moins 13 000 résidents et résidentes. Sur une autre île, celle de Montréal, la librairie Le Guillon a ouvert ses portes en 2016 et se spécialise dans les féminismes, les identités sexuelles et de genre, les réalités raciales et les littératures autochtones et décoloniales. Le tout se décline dans une panoplie de genres. Fiction, essais, bandes dessinées, poésie, livres d'art, essais littéraires, jeunesse, science-fiction et fantasy, en plus d'une importante collection de zines et d'autopublications. José Dufresne ajoute « Nous sommes une coopérative de solidarité dont toute personne usagère peut devenir membre et on fonctionne en collectif non hiérarchique au sein de l'équipe de travailleuses. » Les valeurs démocratiques, inclusives et égalitaires, s'incarnent dans cet espace d'apprentissage, de découverte et de discussion qu'est leur librairie, ouverte à toutes et à tous, et pas seulement à un public déjà sensibilisé aux questions LGBTQ+. Dans le village de Mont-Tremblant, c'est après la fermeture de la seule autre librairie du village que la coopérative Librairie Carpe Diem a été fondée en 2014 et a pris solidement racine dans la communauté locale grâce à une offre adaptée qui fait la part belle aux livres jeunesse et aux jeux de société. Pour Annick Beaulieu, le choix de la coopération est positif à tous les niveaux. Les membres travailleurs et membres de soutien ont un sentiment d'appartenance. Nos membres de soutien peuvent venir faire du bénévolat, étiquetage, sortir les livres dus pour les retours, emballage en période des fêtes, etc. Et nos membres travailleurs sentent qu'ils ont leur mot à dire quant au fonctionnement de la librairie. Il ne faut pas croire qu'on a recours aux coopératives seulement dans l'adversité. La reprise collective d'une entreprise privée, qui connaît le succès et s'est élevée au rang d'institution lorsque l'heure de la retraite sonne pour les fondateurs, représente une avenue de plus en plus fréquentée, tout en étant exigeante. En 2014, les propriétaires de Pantoute, Denis Lebrun et Claire Taillon, ont passé le flambeau à leurs employés et employées. Les libraires sont devenus propriétaires de la librairie, organisés en deux structures, soit une société de gestion d'une part et une coopérative de travailleurs actionnaires de l'autre. Depuis 2021, Les Bouquinistes écrit la suite de son histoire à l'encre de la solidarité. Le souhait de Laval-Martel et d'Anne Lemay de voir l'équipe en place prendre leur relève s'est matérialisé, l'équipe ayant pris soin d'inclure au cœur du projet les clients et clientes, grâce à qui la librairie existe, comme membre de soutien ou utilisateur. Pour la petite histoire, Pantoute et les Bouquinistes comptent parmi les membres fondateurs de la coopérative des librairies indépendantes du Québec, LIQ, mieux connue du public à travers la bannière « Les libraires » et son site leslibraires.ca. Le modèle des LIQ est aujourd'hui étudié au-delà de nos frontières et célébré à titre d'initiative phare de l'achat local en ligne. Des libraires experts de la vente de livres papier ont mis au monde un leader numérique qui a aujourd'hui les deux pieds ancrés dans l'innovation, tout en gardant la tête et le cœur dans la littérature. C'était Petit Archipel de Librairie Coopérative, un éditorial de Jean-Benoît Dumais, paru le 15 octobre 2024 dans Les Libraires.
Queer, un manifeste entre biographie et fiction. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, paru le 1er novembre 2024 dans le magazine Fugue. Film d'ouverture de la 37e édition d'Imagination, Queer révèle l'admiration de Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, pour la vision de l'écrivain culte William S. Burroughs. Le désir d'expérimentation, de fusion des corps, et enfin de trouver une façon de se connecter aux autres de manière profonde. Authentiquement bizarre, le film est respectueux de l'esprit du livre tout en lui ajoutant une troisième partie que ne renierait sûrement pas Burroughs lui-même. Car le héros de Queer s'appelle Lee, comme le personnage de Junkie, le premier roman de William S. Burroughs. Le caractère autobiographique du récit est donc ancré dans le réel, d'autant plus qu'on sait que Burroughs a passé la fin des années 40 à Mexico, comme son héros. Mais chez Burroughs, comme dans ce film, la fantaisie prend parfois le dessus sur la réalité. Pas surprenant, comme Queer est le récit halluciné d'une errance, d'un mal de vivre qui a pour toile de fond un Mexique avec son soleil obsédant, ses étendues de tôle ondulées et toute une faune pittoresque. Au moment où l'histoire débute, Lee erre de bar en bar, noyant son désespoir dans l'alcool, dans la drague, à la fois avide et indifférent, tel un spectre sur qui on sent en permanence peser la menace d'une dissolution. Son seul repère est Allerton, un très beau jeune homme, indolent et jaloux de son indépendance, mais aussi secrètement flatté d'être l'objet de la convoitise de Lee. À force de séduction, de prévenance et de ténacité, Lee parvient à ses fins et accompagne son compagnon dans une étrange expédition à travers l'Amérique du Sud à la recherche d'une mystérieuse drogue connue pour ses pouvoirs télépathiques. Queer est un mi-chemin entre la biographie et la fiction, entre ce monde-ci et un monde lointain. C'est une invitation à ne pas avoir peur de prendre un aphrodisiaque puissant, en l'occurrence le cinéma, et de se laisser submerger par ses effets. Le réalisateur Luca Guadagnino a répondu à quelques-unes de nos questions par rapport à Queer. Est-il vrai que votre parcours avec Queer a commencé lorsque vous avez lu le livre à l'adolescence? Oui, je ne suis pas particulièrement original. J'ai découvert le très inspirant William S. Burroughs comme bien d'autres adolescents. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est qu'une fois que j'ai lu le livre, j'ai découvert le nom et j'ai trouvé dans ce nom une sorte d'iconicité qui m'a conduit à creuser profondément l'univers de Burroughs. Au fil des ans, je me suis rendu compte que j'ai pensé à Burroughs, que j'ai cherché Burroughs et que j'ai paraphrasé William Burroughs toute ma vie. Il est l'une de mes plus grandes inspirations, l'un de mes véritables supports d'imagerie sur lesquels je peux essayer de grimper le mur très abrupt de la créativité. Le livre Queer n'est pas terminé selon son propre auteur. Pouvez-vous nous décrire comment vous en êtes venu à envisager le troisième acte du film? Le scénariste Justin Koritzkes et moi-même voulions trouver un moyen de créer un troisième acte dans l'esprit de Burroughs, qui soit profondément fidèle au livre. Dans le livre, les personnages principaux, Lee et Allerton, rencontrent le docteur Cotter, et ils ne reçoivent pas l'ayahuasca qu'ils recherchent. Nous nous sommes demandé, et s'ils parvenaient enfin à l'obtenir, où cela les mènerait-il? Plus important encore, nous avons parlé du fait que le film n'était pas une histoire d'amour non partagée de Lee pour Allerton, mais une histoire d'amour. Je ne voulais pas raconter une histoire d'amour non partagée. c'est une histoire universelle sur l'amour et sur la façon dont les gens peuvent rendre l'amour ou sur la tragédie de ne pas être au même endroit au même moment, mais néanmoins d'être tous les deux amoureux. Lee aime Allerton. Allerton aime Lee, et ils parviendront à se rencontrer malgré tous les faux pas et les peurs qui agissent sur eux deux dans leur voyage picaresque à travers l'Amérique du Sud, tel que projeté par l'esprit de Burroughs. Quel ton vouliez-vous donner au film? Ce que je sais maintenant de Burroughs, c'est qu'il était très timide et que Queer n'a pas été publié pendant plus de 35 ans après sa rédaction, en partie parce que le livre était trop proche de lui, montrant qu'il était une âme fragile en quête d'amour, ce que nous n'associons pas à son image littéraire. C'est pourquoi Justin, Daniel, Drew et moi-même avons pensé que ce livre devait être interprété comme une histoire d'amour. Il aurait été trop facile de rendre le ton sec, ironique, sarcastique et détaché. L'histoire s'est donc transformée, mais dans le même esprit. Qu'est-ce qui a fait de Daniel Craig votre choix pour incarner le personnage de William Lee? Je sais que Daniel est l'un des grands acteurs de sa génération, et quand je l'ai rencontré, j'ai découvert un homme très chaleureux. J'aime le fait que Daniel et moi ayons noué et développé une grande amitié. J'ai su dès le début que l'engagement de Daniel était complet et total, et qu'il comprenait aussi la profondeur de ce qui devait être mis en valeur à l'écran pour le personnage de Lee. Je pense que ce qu'il a fait de la vulnérabilité et de la candeur du personnage de William Lee est étonnant. Drew Starkey interprète Eugene Allerton. Comment l'avez-vous découvert? Daniel Craig a-t-il également eu son mot à dire sur le casting d'Allerton? Une fois que j'ai trouvé mon partenaire pour le film pour incarner Lee en la personne de Daniel, il était évident pour moi que le processus de recherche d'Allerton devait impliquer Daniel. On m'a donné un enregistrement de Drew Starkey pour un autre projet, et j'ai vu quelque chose d'étonnamment engagé et beau. Je l'ai immédiatement montré à Daniel, qui était d'accord avec moi. Nous avons ensuite visionné des centaines d'autres cassettes d'acteurs, puis nous nous sommes dit « Il n'y a vraiment pas besoin de chercher plus loin, car c'est Drew ». C'était « Queer, un manifeste entre biographie et fiction », une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 1er novembre 2024 dans le magazine Fugue.